Canut vous présente, dans la série L'écran radiophonique,
un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Père. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Grâce à vous, chère comtesse, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Pensez-vous que je vais trouver Moscou changé?
Oh, je...
Excellence, excellence. Excusez-moi, mais la comtesse Vronsky est dans la voiture numéro 4, excellence.
Le train s'est arrêté à la gare des Brotteaux. Un homme en est sorti. Il est grand, mince, porte une petite moustache brune, habillé d'un manteau et d'un pantalon noir. À peine descendu du train, une femme le prend par le bras. L'homme sursaute et essaye de se dégager.
Oh, Armand, tu es encore fâché?
Vous trompez, madame. Je ne suis pas Armand.
Que racontes-tu là?
Je ne suis pas.
Il voit que s'approchent d'eux deux hommes. La femme en profite pour lui prendre le bras. Il se laisse mener.
Je ne suis plus fâché, Armand. Viens, rentrons à la maison.
L'homme soupire, la femme sourit. Elle est un peu plus forte, plus petite que lui, a des cheveux châtains, chignons, un petit chapeau, porte une longue veste et une jupe noire. Sortie de la gare, elle le mène vers une voiture avec un chauffeur devant. « Bonjour monsieur, monsieur n'a pas de bagages ?» La femme regarde l'homme et dit
« Non !»
Le chauffeur et la femme le font entrer dans la voiture. « Monsieur n'est pas bien ?»«
Oui, c'est cela, il est un peu fatigué. »« Ça ne va pas, Armand ?»«
Si, très bien. »«
L'on ne dirait pas, tu es tout pâle. »
Thank you.
La voiture s'est arrêtée boulevard des Belges, devant une maison style 1900. Elle a un étage au fond d'une cour. Le chauffeur sort de voiture pour ouvrir le portail et mettre la voiture devant l'entrée de la maison.
Oh.
Poussez-vous légèrement, s'il vous plaît.
Hein?
Poussez-vous un petit peu, s'il vous plaît.
Ils sont entrés, grand hall d'entrée, au fond, il y a un grand escalier. Un domestique prend les vêtements d'Armand et de la femme. Elle dit à Armand,
« Tu veux te reposer ?»«
Oui, je veux bien, après ce qui m'arrive. »«
Va dans ta chambre. »«
Dans ma chambre. »
Hésitant, il monte à l'étage. Au premier se trouve un long couloir avec des portes.
Si je savais où se trouve cette foutue chambre.
Une porte s'ouvre.
Savez-vous où se trouve ma chambre?
Votre chambre, monsieur. Je ne veux pas aller dans votre chambre, monsieur. Non, je veux l'oublier. Après ce que vous avez fait, monsieur.
Vous vous méprenez. Je cherche simplement ma chambre.
Elle hausse ses épaules.
Comme si monsieur ne savait pas où elle est.
Non, je ne sais pas. Je ne peux tout de même pas tout savoir. Je veux bien qu'on me prenne pour un autre. Mais tout de même, il faut m'aider. Si vous voulez que je joue le jeu. Alors, où elle est cette chambre?
Oh, ça va. Elle est là, en face.
Il y va et ouvre la porte. Entre et ferme la porte. La chambre est vaste et claire, meublée avec des meubles Louis XV.
C'est bien. J'ai été adopté par une famille comme il faut. Qui aurait cru ? Que ma fuite allait me mener ici. Oui, mais assez rêvé. Je m'appelle Henri Eparme. Je dois m'en aller maintenant.
Il sort de la chambre. Et tombe nez à nez avec la femme.
Où vas-tu, Armand?
Je pars. J'ai assez joué. Si vous permettez, madame, je m'en vais.
Arrête de faire l'imbécile, Armand. Reste avec nous.
Pourquoi? Je ne vous connais même pas.
Ne fais pas l'imbécile et entre dans ta chambre.
Non, je pars.
Il dépasse la femme et descend les escaliers en vitesse. Elle lui crie du haut des escaliers.
Armand, reste!
En bas, il tombe sur la bonne.
« Comment s'appelle, madame ?»
La bonne hausse ses épaules. Elle regarde en haut sa maîtresse, qui de désespoir hausse ses épaules. La bonne dit
« Elle est l'aînée. »
« Merci, voilà au moins une chose que j'ai su. »
Et il ouvre la porte d'entrée. Et il voit deux hommes sur le trottoir d'en face.
« Merde !»
Il retourne à la maison. Dans le hall, il retrouve la bonne.
Je ressens vraiment votre maître.
Bien sûr, monsieur.
Hélène s'approche de lui.
Il est revenu.
Eh bien oui, tu vois.
Tu m'as fait une de ces peurs.
Eh bien moi donc. Je retourne dans ma chambre.
C'est ce qu'il fait. Une demi-heure plus tard, il est allongé sur son lit, les mains sur la nuque. L'on frappe à la porte.
Entrez.
Est entrée une jeune fille, grande, mince, cheveux mi-longs blonds. Elle a un joli sourire, porte une robe beige en laine. Elle s'approche du lit.
Bonjour, père.
Bonjour.
Il se soulève et s'assoit sur le lit.
Tu es toujours fâché ?
Je suis fort fâché. Et de quoi serais-je fâché ? On me fait que de me dire que je suis fâché. Mais je ne sais pas de quoi.
Oh, que je suis heureuse, père, si tu savais.
Il s'assoit sur le rebord du lit à côté de son père.
On y sera si heureux. Tu sais, tu nous as fait peur avec ta grande colère et ton départ précipité. Ce n'est pas de la faute à Denis. Si son père et toi, vous vous entendez pas. Armand sourit. Il trouve la jeune fille délicieuse.
Je sais.
Alors, nous pouvons nous fiancer ?
Dis-moi au moins comment il est, ce jeune homme.
Ne fais pas l'enfant. Ne fais pas l'enfant, père. Tu l'as déjà vu.
Si peu.
Bien.
Il est grand, mince, brun, avec de beaux yeux bleus, et a 22 ans.
Et que veut-il faire dans la vie ?
Chirurgien.
Ah, si ça avait été médecin, mais chirurgien, ça peut aller. Et tu l'aimes ?
Oui, oui.
Plus que ton pauvre père.
Oh, père !
Elle se penche et l'embrasse.
Ce n'est pas la même chose. Vous, vous resterez toujours mon père adoré.
Tu dis cela, mais tu ne m'appelles pas papa. Une fille qui aime son père le fait.
Oui, papa. Mais tu sais, c'est toi qui nous as donné l'ordre de t'appeler père.
J'étais idiot.
Père, puisque c'est vous...
Papa.
Papa, puisque c'est vous, nous pouvons inviter Denis à la soirée de demain.
Oui, bien sûr.
Elle l'embrasse et se lève.
Je vais tout de suite le prévenir.
Et sort en courant de la chambre. Une fois seul.
Cela ne me compte pas trop de faire plaisir. Celui que je remplace n'a pas l'air commode. C'est peut-être pour cela qu'il veut le remplacer par un autre.
Pendant le dîner qu'ils prennent avec la fille, Hélène dit
« Je suis inquiète pour Didier, il n'étudie plus, rentre tard, ne parle pas, il faut que tu lui parles. »
« Moi ?»«
Oui. »«
Et lui dire quoi ?»«
Pose-lui des questions, essaie de savoir ce qu'il fait. »«
Bien. »
Dans la nuit, Henri entend du bruit, des pas qui viennent du couloir.
Ce doit être le Didier. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ?
Éclair, la lampe de chevet se lève. Met sa robe de chambre. Et sort de la chambre. Juste au moment où un jeune homme allait ouvrir une porte. Il est grand, mince, une abondante chevelure brune, la peau très blanche et les traits du visage encore enfant. Porte un costume noir et tient à la main un sac en papier blanc. Henri s'approche de lui. Un peu inquiet.
Lui saura-t-il voir que je ne suis pas Armand ? Bonjour Didier.
Bonjour père.
Comment vas-tu ?
Ça va.
Ta mère se fait beaucoup de soucis pour toi ?
Il hausse ses épaules. J'ai 18 ans tout de même. Et, voulant d'un geste brusque ouvrir la porte, il fait tomber son sac en papier. C'est déchiré et montre des liasses de billets. Henri est plus rapide que lui pour les ramasser.
Qu'est-ce que je suis ?
Rien. Donne-les-moi.
Non, pas tant que tu ne m'auras pas dit ce que c'est.
Je ne peux pas te le dire. Didier baisse la tête. Il est au bord des larmes. Laissez-moi, tranquille. Laissez-moi et rendez-les-moi. Henri lui met la main sur le bras.
Didier, dis-moi ce qu'il y a.
Didier plaque sa tête contre la porte. Henri le soulève par l'épaule, ouvre la porte. Éclair, c'est une chambre, ce doit être celle de Didier. Il le fait asseoir sur son lit. Il s'assoit à côté de lui.
Alors, dis-moi ce qu'il y a. Je te promets que l'argent, je ne le garderai pas. Parle si tu veux que je t'aide.
Didier ne dit toujours rien. Henri soupire.
Écoute, tu as dit toi-même que tu avais 18 ans et que tu étais libre et responsable. Si tu es libre et responsable de ce que tu fais, je peux tout entendre. Parle, parle. Je ne chercherai pas à te juger. Sois un homme, je t'écoute. Où as-tu pris cet argent ?
Dans un bar. Il fait aussi PMU.
Raconte tout.
Ben, voilà. Au lycée, j'ai fait la connaissance de 3 copains. Ils avaient un projet en tête, c'était de partir en Amérique. Mais comme cela coûte cher, ils voulaient que pas d'aide de leur famille. Et comme la société est pourrie, leur héros, c'est la bande à Bonneau. Moi aussi, je rêvais comme eux de voyage. J'ai été pris par leur idée. L'Amérique, c'est quelque chose tout de même. De temps en temps, ouf, nous volions dans des soirées, des maisons de campagne. Moi, j'en servais surtout de caissier. C'était chacun à notre tour à faire le coup. Ce soir, c'était à moi. Les autres devaient distraire le barman et moi, je devais prendre la caisse. Malheureusement, le barman s'en est aperçu. Il a foncé sur moi. Les autres se sont enfuis et laissés seuls avec le barman. Pour me débarrasser de son emprise, je lui ai cassé une bouteille sur la tête. Le sang s'est mis à gicler et il est tombé à terre. Je me suis enfui avec l'argent. Dehors, j'ai retrouvé mes copains dans leur voiture. J'aurais dit ce qui s'était passé. Ils m'ont dit, la police va te rechercher, tu es un homme, casse-toi, on ne te connaît plus. Ils ont mis la voiture en marche. Voilà, je me suis retrouvé seul avec l'argent. Henri lui tape la jambe et lui dit,
tu as bien fait de me parler. Je ne te juge pas. Nous avons tous, dans notre jeunesse, fait des bêtises. Moi aussi, je croyais que mon père n'était pas mon père. Je me disais que c'était pour cela que je ne l'aimais pas. Je l'ai volé, insulté, un jour, je me suis rendu compte qu'il était bien bon de supporter tout cela sans broncher. Je me suis mis à l'aimer. Mais avant de l'aimer, qu'est-ce que j'ai pu leur faire voir? À 15 ans, je suis parti avec une femme mûre, juste pour l'embêter, parce que je croyais que c'était sa maîtresse. Enfin, c'est du passé, cela. Le présent, c'est toi. Didier, il faut te méfier des mauvaises fréquentations. Moi aussi, j'ai connu des gens, des jeunes, qui se servaient de fausses idoles, de fausses idéologies, pour assouvir le mauvais instinct. Ils vous embarquent dans des histoires pas possibles, et au premier faux pas, ils vous laissent tomber. Ne les revois plus jamais. Tu as vu, en parlant d'eux, tu le faisais déjà au passé. Sans t'en rendre compte, tu les as déjà quittés. Si tu veux aller en Amérique, parle-en à moi et à ta mère. Je vais tâcher d'arranger les choses. Tu vas me donner le nom du bar. J'irai aux nouvelles demain matin. Je vais renvoyer l'argent par la poste, puisque tu n'en as plus besoin, étant donné que c'est moi qui te paye ton voyage aux prochaines vacances.
Oh, père, c'est vrai?
Ne m'appelle pas père, mais papa. Et avant tout, donne-moi l'adresse.
Oui, papa. Et dire que je te trouvais dur et sévère. J'avais peur de te parler. Didier sort de sa poche, de sa veste, une carte de visite. Voilà, papa. Voilà.
Bien, très bien. Maintenant, tu vas dormir.
Papa, je t'aime bien, tu sais.
Moi aussi.
Et Henri sort de la chambre. Une fois entré dans sa chambre, enfin, dans la chambre de celui qu'il remplace,
avant de partir, je vais régler l'affaire du petit. Si mon père avait agi comme je le fais, je n'en serais pas là.
Henri se prépare à partir, mais il y a toujours les deux personnes devant la maison. Alors pour se renseigner, il téléphone au bar.
Allô, j'aimerais parler au barman qui était hier au soir.
Il est absent, monsieur. Il ne reprendra son travail que dans une semaine.
Ah, il est malade.
Pas exactement, monsieur. Il a reçu une bouteille sur la tête.
Oh, le pauvre, j'espère que ce n'est pas trop grave.
Non, quelques points de soudure.
Ah, ces alcooliques.
Pas tout à fait, c'était pour lui voler la caisse.
Je souhaite pour vous que vous retrouviez le voleur.
Sans doute, monsieur, le barman ne se souvient de rien. Mais vous téléphonez pourquoi, monsieur?
Rien de grave. J'avais perdu mon parapluie.
Après la communication téléphonique, Henri fait un paquet pour envoyer l'argent au bar. Le soir, la mère reçoit. La maison est pleine de monde. Il y a un orchestre qui joue. Henri s'est mis dans un coin et regarde tout ce monde avec mélancolie.
Bientôt, il faudra que je quitte tout cela.
Il voit son fils danser avec Hélène.
J'ai dit à Hélène qu'on devait lui payer des vacances en Amérique. Elle est d'accord.
Arrive vers lui Florence et un jeune homme.
Père, Denis tient à te remercier pour ton invitation.
Mais c'est tout à fait normal d'inviter le fiancé de sa fille.
Oh papa, merci.
La soirée est finie. Henri et Hélène sont seuls dans le grand hall vide de ses invités et en désordre. Hélène se sent mélancolique.
Le temps passe vite, Armand. Je me sens tristement vieillir ce matin. Il y a déjà quelque temps, c'était nous qui étions fiancés. Tu te souviens ?
Ne parle pas ainsi au passé. C'est pour les vieux. Ne dis pas que tu étais belle, mais tu es belle.
Il la prend dans ses bras, l'embrasse, puis, doucement, il l'emmène dans sa chambre. L'allonge et la déshabille.
Armand, à nos âges.
Veux-tu te taire? Tu es merveilleuse.
Matin, sans la réveiller, il sort de la chambre. Va dans la sienne. Quitter son smoking et mettre son costume. Puis, il sort de la chambre. Descend les escaliers.
Papa!
Il se retourne, c'est la fille. Elle descend les escaliers en courant.
Où vas-tu, papa?
Je m'en vais.
Pourquoi?
Parce que je ne suis plus de ce monde. J'étais de passage ici.
Mais papa!
Non. Je suis resté trop longtemps ici. Je dois partir. D'ailleurs, l'on m'attend.
Il ouvre la porte. Les deux hommes sont sur le trottoir d'en face.
Ils viennent me chercher. Adieu, ma petite.
Il l'embrasse sur le front. Sort de la maison. Ouvre le portail. Les deux hommes viennent à lui. Il les suit.
je ne m'en fais pas. Les petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je n'en fais
pas. La matinée, la mère reçoit une convocation pour le commissariat. Elle y va avec ses enfants. Le commissaire les reçoit. C'est un petit homme à moustache noire, chauve.
Madame Hélène Lainé, votre mari a eu il y a 2 jours un grave accident de voiture sur la Nationale 7. Nous n'avons pas pu vous prévenir avant, car votre mari était sans papier sur lui. Les papiers ont été retrouvés sur le lieu de l'accident que le lendemain.
Est-il gravement blessé?
Malheureusement, il a décédé de ses blessures le jour même de l'accident.
Après l'enterrement, la mère et les 2 enfants sont au salon, assis l'un en face de l'autre sur des fauteuils. La fille dit «
Je ne comprends pas, mère. Durant ces 2 jours, nous ne connaissons pas l'accident. Et père était déjà mort. Mais il était bien ici avec nous. Alors ?»
J'ai bien réfléchi à tout cela. Je crois que père, une fois mort, nous a envoyé son double pour nous protéger et régler nos problèmes. Votre père devait beaucoup nous aimer. C'est pour cela qu'il voulait venir nous aider.
Tu crois qu'il reviendra, mère?
Seul Dieu le sait. On ne le voit plus, mais il est peut-être près de nous.
La fille se souvient que lorsqu'il est parti, 2 hommes sont venus le chercher.
Peut-être 2 anges.
Thank you.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Le Père. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.